Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est la quatrième journée nationale d'action dans la fonction publique sous le quinquennat d'Emmanuel Macron ce jeudi. 8 syndicats appellent à la mobilisation alors que la réforme du secteur sera dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Parole de syndicalistes déçus dans un instant.
La transition écologique est en première position sur le programme de la majorité aux européennes. Nous avons demandé aux représentants d'Europe Écologie Les Verts ce qu'ils en pensent.
Et cette question, la conversion d'Emmanuel Macron à l'écologie est-elle sincère? Élément de réponse avec Frédéric Seyss dans son billet politique après ce journal. Avant cela, explication de ce que sont les droits voisins. Le Modem veut les faire appliquer en France avec une proposition de loi débattue aujourd'hui.
Et puis dans cette édition encore, nous analyserons la stratégie américaine pour étouffer l'Iran. De nouvelles sanctions vont s'appliquer.
Enfin, zoom sur la diplomatie féministe. Un G7 consacré à l'égalité femmes-hommes s'ouvre à Paris aujourd'hui. De belles paroles, mais les actes suivent-ils? Nous verrons cela. La mobilisation s'annonce unitaire. Les fonctionnaires sont appelés à faire grève ce jeudi et à manifester dans une centaine de villes en France. C'est la réforme de la fonction publique qui les poussera dans la rue. Texte qui doit arriver en débat à l'Assemblée la semaine prochaine. Texte que les partenaires sociaux n'ont pas beaucoup pu changer en amont, Manon Clavery.
Après un an et presque 50 réunions avec le gouvernement, les syndicats n'ont pourtant pas l'impression d'avoir été écoutés. Bernadette Groison, secrétaire générale de la Fédération syndicale unitaire.
Nous avons mis tout sur la table. Rien de ce que nous avons dit n'a été retenu par le gouvernement. Donc évidemment que nous espérons que tous les agents vont se saisir de ce moment unitaire pour redire les choses.
La revendication est simple. Abandonner le projet de réforme de la fonction publique, à savoir l'élargissement des contrats courts, la mobilité des agents, la création d'une instance unique pour remplacer les CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et surtout le statut des fonctionnaires, indispensable pour le secrétaire général de la CGT Service Public, Baptiste Talbot.
C'est d'abord et avant tout une garantie pour le citoyen, qui permet en fait que le fonctionnaire soit placé à l'abri des pressions politiques et partisanes, des intérêts particuliers, et qui puisse notamment être en capacité de refuser un ordre illégal. Or, le gouvernement veut généraliser le recrutement contractuel, ce qui pose de notre point de vue véritablement un problème républicain.
Le revirement de situation d'Emmanuel Macron le mois dernier sur son projet de suppression de 120 000 postes de fonctionnaires donne de l'espoir. Aux syndicalistes.
On prend ça comme un début de prise en compte du rapport de force qui est en train de monter dans le pays et c'est une forme d'encouragement à ça réussir le 9 mai et à continuer au-delà si nécessaire.
Ils appellent à une mobilisation dans la durée, débat, manifestation, blocage de services publics. Pour la CGT, toutes les formes d'action sont les bienvenues tant qu'elles restent dans le cadre républicain.
Elles seront aussi mobilisées aujourd'hui les enseignants contre la loi Blanquer, la loi dite d'une école de la confiance et les urgentistes parisiens. Leur grève illimitée dure depuis près d'un mois maintenant. Ils manifestent régulièrement depuis l'automne, eux, pour demander une revalorisation de leur pension. Aujourd'hui, plus de 3,5 millions de retraités vont recevoir les trop-perçus de la CSG, soit près de 200 millions d'euros au total. Ce remboursement est l'une des mesures d'urgence annoncées en fin d'année dernière par Emmanuel Macron face à la contestation des Gilets jaunes. Il concerne les retraités qui touchent entre 1 200 et 2 000 euros de pension par mois, cela représentant en moyenne 150 euros par personne. Le commerce équitable a séduit de nombreux Français l'année dernière. La vente des produits labellisés en ce sens a connu un bond de 22% en 2018 selon les acteurs du système. Soutien donc affiché en France aux des consommateurs pour les agriculteurs des pays du Sud, mais aussi aux producteurs français. Des achats responsables, notent les distributeurs. Et puisque l'on parle responsabilité jusqu'à l'écologie, il n'y a qu'un pas. La République En Marche joue complètement cette carte pour les européennes du 26 mai prochain. Depuis hier, on connaît le programme de la liste de la majorité, la transition écologique y figure en première position, avec notamment l'objectif d'investir 1 000 milliards d'euros d'ici 2024 pour développer les énergies et les transports propres et pour rénover les logements. Réaction des candidats sur la liste entièrement verte d'Europe Écologie Les Verts. Selon eux, c'est utopiste, voire mensonger, Steven Goyer.
1 000 milliards d'euros d'investissement dans la transition écologique, une somme massive qui surprend d'abord les écologistes. Exemple avec Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts.
Ça fait quand même plusieurs mois que nous, les écologistes, proposons 100 milliards d'euros pour la transition écologique et que des représentants d'En Marche nous disent « Oh là là, 100 milliards, comment vous allez les financer ?» Et puis, à 20 jours, 15 jours de l'élection, finalement c'est 1000 milliards de leur part. Il y a un problème de cohérence.
Europe Écologie qui doute de la sincérité des annonces, d'autant que les actions récentes au Parlement européen ne semblent pas accréditer l'hypothèse d'une majorité foncièrement écolo.
Sur la pêche électrique, sur le Dieselgate, sur la lutte contre l'évasion fiscale pour financer la transition écolo, c'est systématiquement les députés écologistes qui travaillent et qui trouvent sur leur chemin d'ailleurs la majorité en marche.
La tête de liste Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, qualifie le programme d'enfumage en dénonçant les décisions prises notamment à l'échelle nationale.
Le gouvernement a reporté de 10 ans tout effort de transition énergétique. Les entreprises des énergies renouvelables, notamment l'éolien offshore, se désespèrent de pouvoir embaucher des salariés. Ce président a refusé de légiférer sur le glyphosate et il nous explique qu'il aura ce courage-là au niveau européen. Il y a là une fabrique de l'inaction quand l'urgence est à l'action.
Yannick Jadot qui dit ne pas craindre l'intervention de la majorité sur ces sujets de prédilection, même si celle-ci semble bien décidée à s'afficher presque comme une nouvelle liste verte.
Et après les élections, à quoi serviront les eurodéputés élus, écologistes ou non? À voter par exemple, comme cela a été le cas en mars dernier, de nouvelles règles communes, règles sur le droit d'auteur, notamment celui des journalistes qui est désormais a priori protégé des géants d'Internet via les droits voisins. Ce jeudi, la France pourrait permettre son application au niveau national. Cela passe par une proposition de loi déposée par le groupe Modem. Patrick Mignola s'en explique, il est le patron du groupe à l'Assemblée et rapporteur du texte.
Le droit voisin, c'est ce qui va permettre de faire une SACEM pour les articles de presse. Quand vous écrivez, vous, journaliste, un article, ou que vous faites un son à la radio, ou qu'il peut y avoir un article vidéo qui s'effectue sur une chaîne, et qu'ensuite il est mis en ligne, aujourd'hui, vous n'en retirez aucune rétribution. Votre employeur, qu'il soit éditeur de presse ou agence de presse, ne retire aucune rétribution. Pourtant, il crée de la valeur. Et il crée de la valeur financière, puisque les infomédias, et en particulier Google et Facebook, en retirent des revenus publicitaires. C'est comme ça qu'on constate que la presse a perdu, sur la dernière décennie, quasiment 70% de ses revenus publicitaires, alors que grâce à Internet, ce qui est évidemment une bonne chose, elle avait doublé son lectorat. Et donc, en créant un droit voisin, qui est un droit à diffuser le travail de presse en obligeant les GAFA à payer, ça permettra de rééquilibrer la chaîne de valeur et en fait de retrouver une valeur pour tous ceux qui fabriquent le journalisme en France.
Des propos recueillis par Antoine Jeuffin, droit d'auteur vers un modèle européen de l'Internet. Vous pouvez retrouver les dessous de ces nouvelles règles sur un article, sur Internet, sur franceculture.fr. L'Europe fêtée en ce jeudi 9 mai, c'est la journée de l'Europe dans l'Union. Les Restos du Cœur en profitent pour interpeller les pays de l'Union européenne. L'association demande un plan européen de lutte contre la pauvreté. Elle s'inquiète d'une possible baisse des fonds consacrés à l'aide alimentaire, ce qui aurait un effet catastrophique. Voilà ce que dit le président des Restos du Cœur ce matin.
8h07 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Et justement, cette fête de l'Europe, nous nous intéressons dans les matins de France Culture à l'Europe politique après 2 ans de pouvoir. Cette question donc, Clara, Emmanuel Macron séduit-il encore?
Alors pour France Culture, Rosalie Lafarge a interrogé des politologues, des spécialistes étrangers en Europe, spécialistes de la politique. Au début de son quinquennat, dans son discours de la Sorbonne, le président français promettait une refondation de l'Europe, ce qui avait pu susciter un certain espoir au niveau européen. Qu'en est-il aujourd'hui? Où en est-on? Analyse dans ce journal d'Evgeny Daïnov, politologue et professeur à la Nouvelle Université de Bulgarie.
Je crois que les gens ici sont surpris par sa résilience. Il a survécu en termes de popularité, il a survécu aux Gilets jaunes. Je pense que les gens sont étonnés par cette résilience, par sa souplesse et par sa capacité à prendre des décisions. En Bulgarie, de plus en plus de gens éduqués le voient comme un signal pour le futur de l'Europe. Il a plus de soutien qu'avant, il nourrit plus d'espoir chez les démocrates bulgares. Les gens le voient comme la renaissance d'une Europe qui se développe, d'une Europe en paix, démocratique, qui sait où elle va. Et je crois que les gens comme Salvini et Orban sont sur la mauvaise pente. Macron, lui, est sur le bon chemin, mais tout dépend de lui.
Alors, les analyses en fonction des pays de l'Union européenne ne sont évidemment pas les mêmes. Vous pouvez retrouver ces réflexions de ce politologue bulgare, mais aussi d'une Allemande, un Italien, une Grecque, un Belge. Tout cela est combiné sur notre site franceculture.fr. Plus de sanctions contre l'Iran. C'est ainsi que réagit Washington aux annonces de Téhéran hier, qui menace de reprendre son programme nucléaire. Le président américain Donald Trump a imposé de nouvelles sanctions contre les secteurs iraniens du fer, de l'acier, de l'aluminium et du cuivre. Sorte de nœud coulant, d'étau qui enserre un peu plus l'Iran, Christian Chesneau.
Faute de pouvoir frapper militairement l'Iran, les États-Unis ont mis en place une stratégie d'asphyxie financière et économique de la République islamique. L'idée est de priver Téhéran de ses moyens de mener une politique régionale qualifiée de déstabilisatrice par la Maison-Blanche. L'objectif affiché de Washington est de réduire à zéro les exportations de pétrole vitales pour l'économie iranienne. L'autre face de cette stratégie américaine est de mettre la pression sur les alliés iraniens au Moyen-Orient, comme le Hezbollah au Liban, où les banques du pays du Cèdre sont sous étroite surveillance. En Syrie, l'administration américaine a découragé certains pays du Golfe, comme les Émirats Arabes Unis, qui viennent de rouvrir leur ambassade à Damas, de participer financièrement à la reconstruction du pays, car l'Iran est un fidèle soutien du régime de Bachar el-Assad. En visite surprise à Bagdad, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est venu mettre en garde les autorités irakiennes contre l'influence iranienne dans le pays. Bref, Washington fait tout pour couper les ailes de l'Iran au-delà de ses frontières.
En Syrie, les bombardements se poursuivent sur les derniers territoires insurgés, des djihadistes notamment dans la province d'Idleb. Cependant, les forces de Bachar el-Assad et leurs alliés russes n'épargnent pas les écoles et les hôpitaux du pays. La chef de la diplomatie européenne dénonçait hier soir une violation inacceptable du droit international, alors qu'au moins 10 civils étaient encore tués dans ces raids aériens. Le dossier syrien sera à l'ordre du jour d'une réunion d'urgence à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sera demain, vendredi. Un G7 ministériel pour l'égalité des femmes et des hommes. Après le Canada l'année dernière, c'est la France qui l'organise. Il débute aujourd'hui à Paris, sous les ordres de la secrétaire d'État, Marlène Schiappa, car il existe maintenant, Claude Guibal, une diplomatie féministe.
C'était en février dernier, après le Canada et la Suède, la France annonçait en grande pompe se doter d'une diplomatie féministe. En clair, une diplomatie prenant en compte la défense des droits des femmes, notamment sexuels et reproductifs, ou leur autonomisation. Mais pour Sophie Chassot, chargée de plaidoyer pour le droit des femmes au sein de l'ONG Care France, il va falloir prouver qu'au-delà des mots, la réduction des inégalités hommes-femmes est effectivement une priorité.
Nous, on attend qu'elle se concrétise en engagement concret, parce que sans support financier, il ne pourra pas y avoir une réelle transformation des sociétés vers plus d'égalité. Et une deuxième chose, c'est plus de consultations aussi des femmes qui sont les premières concernées par les politiques qui vont être mises en œuvre et qui sont quand même assez absentes encore dans les leaders du G7. Il y a quelques femmes, mais on sait très bien que c'est quand même souvent des hommes qui prennent des décisions pour les droits des femmes, que ce soit dans les pays du G7 ou à l'international.
Reste qu'au sein du G7, aucun pays ne peut prétendre avoir atteint l'égalité homme-femme. Ni la France, qui n'a pas connu de femme Premier ministre depuis plus de 30 ans, cette même France qui a par ailleurs récemment bloqué une directive européenne sur le congé parental, pas plus les États-Unis qui ont le mois dernier vidé de son sens un texte de l'ONU qui devait intensifier la protection des femmes victimes de viols lors de conflits, encore moins le Japon où aucune femme, même ministre, ne sera autorisée à assister au sacre du nouvel empereur.
En Afrique du Sud, il y avait des femmes candidates hier aux législatives et aux régionales. Reste à savoir combien d'entre elles seront élues. Le pays attend encore ce matin les résultats du scrutin. Il devrait prolonger le règne du parti de l'ANC, parti historique de Nelson Mandela, confortant le président actuel, Cyril Ramaphosa. Et ce, malgré le chômage, la corruption et la pauvreté qui affectent le pays. Partons maintenant en Italie, à Turin, où s'ouvre ce jeudi le Salon du Livre de Turin. Salon dans une ambiance particulière, puisqu'une maison d'édition ouvertement fasciste y est présente, Antonino Gallofaro.
Sur les stands du Salon turinois, le visage de Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur et patron de la Ligue à l'extrême droite, en couverture d'un livre édité par des néo-fascistes. La maison d'édition Altaforte est proche du mouvement Casa Pound inquiète. Le dessinateur romain et militant de gauche Zero Calcare a annulé sa participation.
C'est un malaise personnel lié à la difficulté d'être dans le même lieu que des proches de personnes qui ont poignardé des amis ainsi que beaucoup d'autres gens. Et l'idée que cette chose se normalise, que l'on doive travailler côte à côte, je n'arrive décidément pas à la gérer.
En réalité, il ne s'agit pas d'une première pour des sympathisants fasciste au Salon du Livre turinois. Ce qui inquiète, par exemple, l'écrivaine Michela Murgia, c'est que ceci soit désormais accueilli dans les sphères du pouvoir. La critique littéraire a tout de même décidé de participer au salon.
Ce sont eux qui ne sont pas à leur place, pas moi. Ce n'est pas à moi de m'en aller du salon. Le salon est la maison des écrivains, des éditeurs et des lecteurs, pas des fascistes. Je ne crois pas que ce soit un objectif démocratique, celui de s'en aller pour laisser le salon seulement aux maisons d'édition fascistes.
Avec d'autres écrivains, Michela Murgia a choisi de lire des textes antifascistes pour rappeler les horreurs du régime de Mussolini plutôt que de présenter son livre.
Antonino Gallofaro en Italie pour France Culture. Nous revenons en France pour quelques mots de météo. Seules les frontières du sud du pays seront épargnées ce jeudi par les averses. Des pluies plus fortes à l'est de la France que sur l'ouest et des températures qui ne changent pas globalement avec 12 degrés ce matin à Strasbourg et Lille, 13 à Paris et Bordeaux, comptez 14 degrés à Nantes et à Lyon, 19 degrés sous le soleil de Nice.